Alors oui, on peut ouvrir notre Bible ce matin, ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à chercher le livre des Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, qui se trouve juste après le livre des Actes, l'épître aux Romains. Vous trouverez l'épître aux Corinthiens et là, cherchez le chapitre 6. Est-ce que vous avez déjà entendu, on entend régulièrement ce slogan, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Chaque fois qu'il y a des actes réalisés par les autorités de police et qui ne sont pas conformes à la loi, qui sont injustes, mais ça soulève un mouvement d'indignation. Et voilà, ça justifie le fait d'avoir des émeutes ou d'avoir des choses comme ça. On attend d'avoir la justice et après on accordera la paix. Et on entend également une petite phrase qui revient régulièrement par rapport aux événements qui ont lieu en Ukraine pour que la paix soit établie. Mais voilà, il faut une paix juste et durable. Et évidemment, les Ukrainiens qui ont vu une agression de Russes, qui ont vu les bombes tomber sur leur pays et des soldats arriver et pousser, vouloir repousser les frontières, prendre les enfants, les amener dans leur pays. Comment ils peuvent imaginer une paix qui ne soit pas une paix juste? L'injustice et la paix ne vont pas ensemble, ne cohabitent pas. Et c'est vrai qu'on constate cela. Une paix forcée, une paix sans justice, n'est pas une paix joyeuse. Et pour nous, chrétiens, on est également... constate, c'est là, la parole de Dieu le constate. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, verset 7, l'apôtre Paul a écrit que le royaume de Dieu, ce n'était pas le manger et le boire, c'était des choses beaucoup plus importantes. C'était la justice, la paix et la joie. Et ces trois vont ensemble, la justice, la paix et la joie. S'il manque l'un, ça ne va pas. Comment être en paix quand on est face à l'injustice et comment avoir de la joie dans ces conditions-là? Alors c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Comment être paisible, comment être joyeux quand on subit une injustice, quand on subit une injustice et tout particulièrement là où elle ne doit pas se trouver, dans l'Église. Alors on va lire la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 9. Je vais lire dans la Nouvelle Bible Seconde, 1 Corinthiens 6, versets 1 à 11. Oui, 1 à 9, j'ai dit non, 1 à 11. Lorsque l'un de vous a un différend avec un autre, comment ose-t-il faire un procès devant les injustes et non pas devant les saints? Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi? Pourquoi pas, à plus forte raison, ne jugerions-nous pas les affaires de la vie? Si donc vous avez un différend concernant les affaires de la vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous faites juge. Je le dis à votre honte, ainsi parmi vous, il n'y a pas un seul sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère fait un procès à un autre frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? C'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? ne vous égarez pas. Ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec les hommes, les voleurs, les gens avides et les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité, qui hériteront le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom de du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors un mot sur le contexte dans lequel a été écrit ce texte. L'église de Corinthe était une grande église, mais dans une culture qui était quand même loin de Dieu. En cela, elle ressemblait un petit peu à la nôtre quand même. Mais la Corinthe du 1er siècle n'est pas figeac aujourd'hui. Corinthe avait une mauvaise réputation dans beaucoup de domaines. Et en quelque sorte, les personnes qui se sont converties là avaient du chemin, beaucoup de chemin à faire. Ils revenaient de loin. Et il y avait beaucoup. Le peuple de Dieu était nombreux à Corinthe. Nous apprenons cela dans le livre des Actes. La culture était différente et le recours aux tribunaux était une pratique courante. Hein. On a dans le monde gréco-romain, on s'amoyait facilement devant les tribunaux pour régler les problèmes. On voit ça d'ailleurs dans Actes 19, 38. Alors il nous faudra contextualiser ce problème que nous avons entendu dans l'église de Corinthe pour le ramener à ce qui pourrait se passer chez nous. Des choses sans doute moins spectaculaires, mais des choses qui enlèvent la paix de la même manière. L'église de Corinthe était pleine d'orgueil et pleine de désordre. Et quand on voit la liste de tout ce que l'apôtre énumère dans l'église de Corinthe, on se dit, mais c'était vraiment des chrétiens qu'il y avait là? Oui, c'était des chrétiens. Et on trouvait dans l'église de l'orgueil, de la débauche, des procès, des erreurs doctrinales, de l'égoïsme, du désordre pendant les cultes. Pour autant, c'était une église sainte. Malgré tous ses défauts, Paul rappelle aux frères et aux sœurs de Corinthe qu'ils sont saints. Et il commence cela au tout début de sa lettre. Dans l'introduction même, les trois premiers versets, Paul avait commencé à écrire aux Corinthiens de cette façon-là. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, par appel, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et là, il englobe, il parle, il englobe, il voit plus large que l'église de Corinthe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Après avoir vu le contexte de l'église, donc dans les trois premiers versets, on a un petit peu la mauvaise façon de réagir face à l'injustice dont on peut être l'objet. Lorsque l'un de vous est indifférent avec un autre, comment ose-t-il faire un procès devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, des affaires de la vie? Les faits sont là, deux frères en Christ, un appel aux tribunaux séculiers pour régler leurs problèmes au lieu de faire appel à leur Église. Demander justice devant les injustes. Ils demandent justice devant des injustes. C'est la façon dont la seconde 21 a traduit ce premier verset de 1 Corinthiens 6. Il est incompréhensible que des chrétiens qui ont la prétention de connaître et de servir le Dieu de justice demandent à des personnes étrangères à ce Dieu de les juger. Et en quelque sorte, c'est vouloir résoudre une injustice par une autre injustice. D'autant que quand on va devant les tribunaux, c'est sous-entendu dans ce que dit le propos de l'apôtre Paul, il y a des frais, ça va coûter de l'argent au perdant. C'est une autre forme d'injustice, on se fait du mal aux uns et aux autres en voulant, à un frère, en voulant résoudre un problème qu'il a avec un autre frère, en l'amenant devant les tribunaux, et s'il s'avère qu'il a gain de cause, il va faire du mal à son frère, voulant réparer sa propre la propre injustice dont il a été fait l'objet, il va faire une autre injustice. Demander justice devant les injustes, ce n'est pas la bonne solution. Oublier son identité chrétienne. Les saints jugeront le monde. Et cela peut-être vous paraît surprenant. Les saints jugeront même des anges. Cela paraît extraordinaire. Et pourtant, c'est bien sûr l'agenda des chrétiens, mais avec la différence que c'est pour plus tard. Et c'est important. Jésus a dit à ses apôtres en Matthieu 19, 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et en Apocalypse 3, 21, Jésus dicte à l'apôtre Jean, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Mais tout cela, c'est pour plus tard. Il ne faut pas anticiper, et c'est ce que, par ailleurs, les Corinthiens faisaient. Un des problèmes des Corinthiens est que dans leur orgueil, ils avaient déjà commencé à régner, dit l'apôtre Paul. Et aussi, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des conflits d'égo, des petits royaumes qui s'affrontent avec des petits rois, chacun défendant son lopin de privilèges. On retrouve, lisons cela dans la première aux Corinthiens, donc juste le propos précédent de l'apôtre Paul, dans le chapitre 4, versets 8 et 13. Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Les Corinthiens se voyaient sages et ils n'étaient pas capables de résoudre leurs propres problèmes. Ils se voyaient déjà arrivés. La mauvaise façon de réagir face à l'injustice. Les versets suivants. Sinon, vous avez des différends, versets 4 à 6, concernant les affaires de la vie. Ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous faites juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul sage. Qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère fait un procès à un autre frère, et cela devant les non-croyants. La bonne façon de réagir face à l'injustice maintenant, une piste que propose l'apôtre Paul. Rappelons les faits. Les Corinthiens qui se voient au top de la spiritualité sont incapables de régler les problèmes entre eux. Ils doivent faire appel aux incroyants. Pourtant, Jésus a laissé une méthode à suivre. Lisons-la maintenant. En Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme si les problèmes n'existaient pas, de se fermer les yeux. Mais il s'agit de trouver une solution à la gloire de Dieu. Matthieu, chapitre 18. C'est un passage très connu, qui est souvent évoqué en ce qui concerne l'exercice de la discipline dans l'Église. Voici ce que nous lisons au verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et donc nous avons une première étape là, se parler et s'écouter. Se parler et s'écouter, quand on se voit en Christ, quand on revêt, on doit toujours l'avoir sur nous, cette casquette de chrétien qui est marquée dessus là, voilà, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus, que c'est clair. Quand on est un racheté de Jésus et qu'on entend son retour, il y a la place pour pouvoir parler paisiblement, s'écouter paisiblement et résoudre une difficulté dans la paix. Comment voir les choses? Mon frère est chrétien. Il aime le même Seigneur que moi. Et le Seigneur l'aime comme moi. L'éthique du royaume de Dieu, c'est l'amour, comme l'amour que nous a montré Jésus. J'ai donc un devoir d'amour envers mon frère. Aimer mon frère, c'est vrai que ça passe aussi courageusement et humblement et doucement, avec douceur et avec humilité, aller le voir pour le gagner à Christ. Reprends-le, seul à seul. Parle-lui, seul à seul. Écoute-le aussi, parce qu'il y a peut-être des choses à dire de son côté. Et le résultat, tu as gagné ton frère, a dit Jésus. Mais si ça ne marche pas, s'il n'y a toujours pas de reconnaissance de tort, il faut demander de l'aide. Et demander de l'aide où ça? à l'Église. C'est ce que Paul préconise ici, faire appel à une personne connue pour sa sagesse, reconnue par les deux comme étant une personne de sagesse et qui pourra trancher la question. Avec sagesse, régler le différend. En effet, nous ne sommes pas encore rendus parfaits. Notre propre jugement est souvent faussé par notre culture, par les choses que nous avons vécues, et surtout par notre nature humaine qui a toujours tendance à se rebeller à Dieu. Elle est là, on ne peut pas la nier. Et dans l'Écriture, Paul la désigne par le mot, l'expression, la chair. C'est la façon de vivre et de réagir quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Nous avons tous et toutes, en effet, des angles morts. Vous savez, dans le rétroviseur de la voiture, il y a l'angle mort, il y a un endroit où on ne voit pas le véhicule qui est derrière. Les camions, ils ont beaucoup ça, et ils ont des angles morts. Et nous avons tous des angles morts. Nous avons des... Sur cet point, nous sommes aveugles, et on ne va pas y arriver tout seul. On a besoin de l'aide. Imaginez un instant que l'injustice que nous soupçonnons chez l'autre soit en réalité chez nous. Combien il est important de régler ces problèmes. Demander de l'aide à quelqu'un peut être humiliant, mais ce n'est pas honteux. Ce qui est honteux, c'est d'avoir des différends qui perdurent. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Des différends qui perdurent, qui perdurent. Alors, porter le problème devant l'Église. L'Église locale, l'Assemblée des Saints, comme la désigne l'apôtre, c'est la plus haute juridiction du royaume de Dieu sur la terre actuellement. Dans cette situation où on attend le retour de Jésus, l'Assemblée des Saints est la plus haute des juridictions. Et elle est renforcée ici par ce verset de Matthieu 18:10, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. L'exercice de la discipline est bien évidemment aussi un acte d'amour visant à restaurer la personne, à gagner la personne qui est dans une situation où il a commis l'injustice. Faire prendre conscience de l'injustice. Mais bien sûr, il vaut mieux ne pas en arriver là, il vaut mieux régler les problèmes, comme on dit, à l'amiable, entre quatre yeux. C'est tellement mieux. Et pour cela, se placer en Christ. Mais si tout cela ne suffit pas, versets 7 à 8. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? C'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, ce sont vos frères. Un rappel des faits. Deux frères ont un différend. Aucun d'eux ne veut lâcher l'affaire. Ils sont allés en procès. Dans l'éthique du royaume, le plus grand problème n'est pas d'aller porter son différend devant les étrangers. Dans l'éthique du royaume, le plus grand problème est d'avoir des différends. Alors, retrouver la paix quand tout a été tenté, que faire pour retrouver la paix? Retrouver la paix en cas d'impasse. L'apôtre Paul ici fait allusion au sermon sur la montagne de Jésus et on va le relire. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48, je vous encourage à chercher des références, à les lire avec moi, parce qu'on apprend où ils sont et on les mémorise en même temps. Sommes sur le sermon sur la montagne, un grand discours très célèbre, le plus célèbre que Jésus a dit, où il trace comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Quelles sont les lois du royaume de Dieu? Et au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire une réponse proportionnelle à l'offense. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, une corvée, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'éthique du royaume. Alors il s'agit ici d'abandonner ses droits. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Non seulement abandonner ses droits, mais aller au-delà. Et se conduire de cette façon-là envers un frère, c'est un petit peu le considérer comme s'il était un païen quelque part. Pour le but est de l'amener à reconnaître que Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est ainsi que le chrétien doit se comporter quand il est dans le monde. Alors, j'ai une illustration à vous présenter maintenant qui va un petit peu dédramatiser la situation. Je vais mettre un petit clip vidéo d'histoire que vous connaissez peut-être, mais on aura plaisir à la réécouter, de ce qui est arrivé à Irino D'Amazzo, ce frère qui est auprès du Seigneur maintenant.
Bonjour. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Le voleur de planches ». Il y a plus de 20 ans, après avoir prêché dans une réunion, je rentrais chez moi. C'était au lever du soleil. Nous avions alors une menuiserie artisanale et des tas de planches se trouvaient empilées dans la cour. Ce matin-là, je vis en arrivant à la maison quatre hommes en train de charger des planches dans une remorque attelée à leur voiture. Ah, mon cœur ne fit qu'un bond, car j'y tenais à mes belles planches de coffrage. Cela me rappelait la dernière fois que j'avais surpris un voleur dans ma maison. Je lui avais cassé mon téléphone sans fil sur la tête. Puis le voleur s'était enfui à grande enjambée, et je me suis retrouvé seul avec mon téléphone en morceaux, et surtout le sentiment d'avoir mal réagi. Avant de m'approcher de cet homme, je demandais à Dieu de me remplir de son amour. Je ne voulais pas toujours prêcher sur l'amour et le pardon, mais j'aspirais à les mettre en pratique. Je me dirigeais donc vers les voleurs et je leur demandais si je pouvais les aider à charger leur remorque. Ils acceptèrent en me déclarant que les propriétaires étaient chrétiens et qu'il n'y avait vraiment pas à se gêner. La remorque fut vite remplie et ils m'assurèrent qu'ils en avaient assez, mais je leur remis encore 5 de mes plus belles planches. Après quoi, voyant qu'ils avaient beaucoup transpiré, je leur demandai s'ils accepteraient de boire un verre de cidre, car je savais où on était, leur dis-je. Je revins donc avec une bouteille et des verres. Voyant cela, ils ne purent s'empêcher d'ajouter « Mais tu es un sacré coquin, toi, de savoir même où est le cidre !» Alors je leur expliquai que le propriétaire des planches, c'était moi, que j'habitais cette maison, et qu'il me serait facile de les dénoncer à la police, mais que je ne le ferais pas, car le Seigneur avait changé mon cœur, car moi aussi, j'avais été un voleur dans ma jeunesse, et que depuis j'avais été pardonné par Jésus-Christ. Dès qu'ils m'entendirent, ils se mirent à trembler. Je leur parlais du pardon de Jésus, de la repentance et de son amour pour nous à travers sa mort sur la croix. Puis ils partirent à vive allure. Je les avais invités aux réunions que nous tenions toutes les semaines dans notre église de maison, mais je ne les vis jamais. Ce n'est que 19 ans après cet événement que l'un des voleurs va me retrouver pour me demander pardon et m'expliqua qu'il s'était converti depuis quelques semaines. Car depuis cette fameuse nuit du vol des planches, sa conscience le travaillait jour après jour. Dites-moi, une âme ne vaut-elle pas plus que quelques planches, même que mes plus belles planches de coffrage? Nous voudrions parfois que les cœurs se tournent vers Dieu immédiatement. Et trop souvent, nous croyons que notre travail est en vain si nous ne voyons pas de résultat. Mais le Seigneur œuvre dans le silence des cœurs. Ce qu'il faut, c'est de lui rester fidèle en toutes circonstances. Et il agira.
Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.
Retrouver la paix en cas d'impasse. Comment faire? Abandonner ses droits face à l'injustice. Abandonner la situation à Dieu. Une bonne façon de le faire sans être dans des situations dramatiques, mais peut-être dans beaucoup de situations de la vie où au bout d'un moment, on voit que c'est pas la peine d'insister. Et donc de confier le problème entre les mains de Dieu. Seigneur, je n'arrive pas avec cette difficulté. Je suis en guerre permanente, sans résultat. Seigneur, je dépose cette difficulté entre tes mains, je m'en occupe plus. Et Dieu agira en son temps, en sa façon. Retrouver la paix en cas d'impasse. L'apôtre continue après ces paroles. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas, ce sont ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, l'idolâtrie, adultère, les hommes qui couchent avec les hommes, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité, qui hériteront. Ce ne sont pas ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, on a une remise à l'heure des pendules, remettre l'Église au centre du village, on dirait aussi cette expression-là. L'apôtre Paul veut que les Corinthiens retrouvent la crainte de Dieu. Et peut-être nous aussi, nous avons besoin de retrouver la crainte de Dieu. Ce qui est injuste restera toujours injuste. Il ne faut pas s'attendre que la législation du royaume change. Dieu est saint et il ne change pas. Mais c'est nous qui devons changer pour faire des progrès dans la sanctification, pour ressembler à Jésus. Et il cite des situations. Laquelle de ces situations vous semble la plus éloignée de Dieu, la plus horrible? Et laquelle, finalement, êtes-vous la plus proche? Dans le cas de ces deux personnes qui se mettaient dans les tribunaux, on ne sait pas à quoi, pourquoi, mais on peut se douter qu'il y avait derrière cela quand même des histoires d'argent. Et donc, ils vont se sentir épinglés dans cette liste. Mais pour nous personnellement, quelle est celle qui nous fait le plus horreur? Quelle est celle, s'il y avait quelqu'un à qui on ressemble, ce serait lequel? Les injustes, ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, toutes sortes de déviations sexuelles, de sexualité anormale, à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est chercher sa satisfaction en dehors que Dieu lui-même, qu'on plaçait notre sécurité en autre chose que en Dieu, trouver sa source de joie et de réconfort ailleurs qu'en Dieu, une idole que l'on s'est fabriquée pour prendre et qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. À l'adultère, ne pas être satisfait de ce qu'on a, aller chercher ailleurs la satisfaction. La question des hommes qui couchent avec les hommes ici, les voleurs, les gens avides de posséder, les ivrognes, les addicts, on peut chercher son secours, sa paix, comme on disait la semaine dernière, dans toutes sortes d'addictions et de produits de substitution qui sont l'illusion de nous donner une paix éphémère. Ceux qui s'adonnent aux insultes, les moqueurs professionnels, ceux qui sèment la pagaille, ceux qui donnent des insultes, qui insultent les autres, qui les blessent, ceux qui sont à la rapacité, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, vous avez identifié dans la liste les deux. Continuons la lecture. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le pire des personnes de notre liste peut trouver en Jésus-Christ la purification, peut trouver en Jésus-Christ la sainteté et être déclaré juste devant Dieu par le nom de Jésus-Christ. Si ce qui est injuste restera toujours injuste, le salut viendra toujours de Dieu. C'est bien aux hommes de passer de l'injustice à la justice, et c'est bien Dieu qui fait passer de l'injustice à la justice. Dieu nous appelle à la sainteté. Le salut vient de Dieu. Et Jésus est le seul juste. Il est bon de se souvenir que si Dieu nous est favorable, c'est seulement en raison de la justice de Jésus et non en raison de notre propre justice. Au début de sa lettre, Paul a déclaré dans le premier chapitre, à la fin du premier chapitre, je lis dans la seconde 21. Cette grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Notre justice est en fait la justice de Jésus-Christ. Alors pour conclure, l'Église est sainte, elle est séparée du monde. Et l'injustice n'a pas sa place dans l'Église, qui est un lieu de paix, de joie et justement de justice. Les conflits entre frères sont un malheur et il faut le régler. C'est important. Et s'il y a des difficultés, on le règle. Dans l'Église, c'est la seule institution que Jésus ait donnée pour faire ça. Et si le conflit perdure, il reste toujours possible d'agir comme on agit envers un incroyant et sauver ainsi la paix comme on agit la détique du sermon sur la montagne. Dieu nous appelle à la sainteté et le seul juste est Jésus-Christ. On va prier. Cette histoire qui s'est passée à Corinthe, Seigneur, nous parle à nous, dans toutes nos difficultés, de demander, Seigneur, de ne pas laisser les problèmes perdurer, les problèmes où il n'y a pas de justice, s'enraciner, mais que nous ayons le courage de chercher à résoudre ces difficultés qui nous pourrissent la vie, comme on dit. Ça peut être à tellement de niveaux différents. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans toute autre situation où nous nous retrouvons entre chrétiens, dans l'Église. Merci, Seigneur, de ce qu'en Jésus-Christ il y a solution à trouver pour cela, que nous pouvons nous humilier les uns envers les autres, nous pouvons nous soumettre les uns aux autres, nous pouvons retrouver la paix, nous pouvons donner, accorder le pardon, retrouver la paix avec le frère. Et recevoir tout à nouveau ta paix qui inonde dans notre cœur. Merci de toutes ces possibilités qui sont offertes. Merci également que tu connais notre cœur et tu sais que nous pouvons nous endurcir. Et tu as prévu toutes sortes de solutions pour nous ramener à toi. Merci de ce que tu n'abandonnes jamais ta brebis et que tu vas la chercher même si elle s'est éloignée loin de toi et même s'il faudra du temps. Merci Seigneur de bénir notre Église, de nous aider dans toutes nos difficultés. On n'est pas l'Église de Corinthe, on est l'Église de Figeac, on a les nôtres et elles sont tellement grandes pour nous. Aussi, nous nous tournons vers toi et nous te demandons ta grâce et ta paix comme tu l'as promis dans ta parole. Et fais et accomplis, Seigneur, ce que nous n'arrivons pas. Merci pour que nous puissions également faire tout ce que nous pouvons et de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.